Cette semaine, c'est la fête de la radio sur Globule.
On fête les 100 ans de la radio.
On fête les 40 ans de la libération des ondes.
Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France.
Retrouvez des émissions spéciales en direct des établissements de la vallée de Chamonix tous les soirs de 17 à 19h, conclu par un marathon de 24 heures d'antenne en direct.
24 heures d'antenne en direct.
C'est la fête de la radio sur le 90.5.
Et nous accueillons Dominique Fournier, membre et guide de la Fondation, pour nous en parler plus en détail. La Fondation Marconi a été créée pour rendre hommage justement à son créateur, Guglielmo Marconi, si je le dis bien, je l'espère, physicien italien, qui s'était installé là à l'été 1895, et nous raconter un peu l'ambiance de l'époque à Salvan. Bonjour Dominique Fournier.
Bonjour et bienvenue.
Vous allez bien ?
Très bien.
Bon, bah super. Merci de nous avoir ouvert le musée, c'est vous qui avez les clés. Puisque le musée est fermé en ce moment, il ouvrira pour les curieux à partir du 15 juillet, pour un mois seulement. Après, si on a envie de le visiter, vous êtes un passionné, vous avez les clés, on vous appelle et puis vous nous ouvrez les quatre petites salles du musée Marconi.
Oui, le musée est ouvert toute l'année, sur réservation par rapport à des visites guidées. Après, on module en fonction du nombre, de l'âge des visiteurs et tout ça, mais tout est possible tout au long de l'année.
Et je crois que je vous ai vu faire un peu les gros yeux tout à l'heure quand on parlait avec Justin et qu'on présentait un peu ce qui s'était passé à Salvan. Je crois qu'on a dit quelques bêtises en fait sur la naissance de la radio, sur le berceau de la radio. Vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit une bêtise ?
Alors, sans être spécialiste de la radio proprement dite ni technicien, il y a juste, c'est pas des bêtises, c'est des inexactitudes.
Voilà.
Dans le sens où c'est que le premier essai réussi par Guglielmo Marconi a eu lieu à Sasso Marconi, c'est un petit village près de Bologne en Italie, et il a fait ses premiers essais réussis à la villa parentale, la villa Grifone. Et c'est juste ça la première inexactitude. Et puis deuxièmement, il faut savoir que la radio, en tant que transmission de paroles, de musique ou autre chose, est arrivée bien après le passage de Marconi ici, puisqu'il a été ici en 1895. Et ici, il a continué ses essais, puisque là-bas, il a réussi des essais qui variaient entre 20, 30 jusqu'à 100 mètres. Et ici, il a réussi un essai entre Salvan et les Marécottes à partir de la pierre bergère, effectivement, qui correspond à 1500 mètres. Mais à l'époque, encore une fois, c'était uniquement des signaux morse que l'on transmettait et on se parlait par signaux morse. En fait, pour imaginer les choses, comme on le dit aux enfants, c'est très facile.
Alors,
à l'époque, le téléphone existait par Graham Bell et Marconi a coupé le fil du téléphone. C'est-à-dire qu'il a fait un émetteur et un récepteur qui étaient capables non pas de se parler, mais d'émettre et de recevoir des signaux sans le fil. Voilà.
D'accord.
C'est là qu'est née la télégraphie sans fil, la TSF.
Et ça s'est passé juste au-dessus de nos têtes, on pourrait dire, puisqu'il y avait son collègue avec lui qui était sur une pierre qui était juste derrière le musée. Et lui, il était au Marécottes, donc à 1,5 km, c'est ça ?
Alors oui, dans l'histoire, si on veut, ça s'est passé un petit peu. Il a rencontré un petit garçon qu'il avait besoin pour transporter son appareil, son récepteur. Lui a été sur la pierre bergère. D'abord, ça a commencé à 4-5 mètres. Comme l'explique Maurice Guébalmin, qui était le petit garçon d'époque, au début, ça ne fonctionnait pas. Puis après, ça fonctionnait. Il s'est déplacé jusque 200-300 mètres. Et après, c'est Marconi qui a été juste où c'est qu'était Maurice. Et lui se promenait sur le coteau en dessus de Salvan, en partant sur le chemin de l'Adret, comme on dit, et toujours plus loin, jusqu'aux Marécottes. Mais bien entendu, à l'époque, ils n'avaient pas le Natel dans la poche ou le mobile dans la poche pour dire ça va ou ça va pas. Alors, ils faisaient des signes avec des drapeaux, un drapeau rouge ou un drapeau blanc, pour dire si ça marchait ou si ça ne marchait pas.
D'accord.
Et les gens, ils pensaient qu'ils étaient un petit peu gaga, mais
c'était
un grand pas pour l'humanité.
Ça devait être impressionnant ici, puisque c'était
sûr.
Quand même un village où il y avait des agriculteurs, j'imagine, en majorité à l'époque.
Pour reprendre par rapport à l'histoire dont a parlé Luc tout à l'heure, effectivement, jusqu'aux années 1850, le territoire de la commune de Salvan, comme tout le reste de la vallée du Trien, les gens vivaient presque en autarcie. Un petit peu d'artisanat et de vente de choses, mais les gens vivaient sur place d'agriculture et d'artisanat. Et est arrivé en 1840-1850 les premiers touristes par la vallée de Chamonix, comme il l'a expliqué en fonction de l'alpinisme et tout ça. Ils sont descendus de la vallée du Trien par la voie Cook, et depuis là est parti le sort touristique jusqu'à la fin des années 30. Mais en 1900-1920, la commune de Salvan comptait 19 hôtels et pensions, et tous ces grands bâtiments accueillaient en tourisme d'été, une multitude de gens de toutes classes sociales, mais notamment, comme il a dit tout à l'heure, un peu comme on dirait maintenant, la jet set.
La jet set, et ça ouvrait un peu, tous les pays. Voilà, sur le monde, et notamment des physiciens qui adorent d'ailleurs la montagne pour y réfléchir et créer des machines.
D'où certainement la venue de Guglielmo Marconi ici, puisque c'était un lieu connu. Guglielmo Marconi, de père italien et de mère irlandaise, a voyagé très jeune à travers l'Europe. Il passait par le Simplon, le Côte du Rhône, Lausanne, Bâle, la traversée de la France pour aller jusqu'à Bedford, en Irlande, où c'est que sa mère, Madame Jameson, des districts Jameson, qui existent toujours.
Ah oui.
Et donc il a traversé à travers la Suisse. Et certainement que de par ce biais-là, qu'il est venu ici, parce que, alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, mais par contre, aucune industrie technique, rien du tout. Donc, il était à l'abri de toutes les oreilles et tous les yeux pour continuer ses expériences tranquillement.
D'accord, en fait, il est venu se cacher ici.
Je ne sais pas s'il est venu se cacher, mais... Puis l'autre raison, c'est comme il l'a dit Luc aussi, c'est que Guglielmo Marconi souffrait d'affection pulmonaire. Donc, déjà à l'époque, Salvan était une station dite climatérique, où c'est que les gens venaient, parce qu'à l'époque, on disait qu'à 1000 mètres, l'air était absolument clean, pur, extraordinaire. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, ça fait marcher le commerce de toutes les stations ski m'acquérit, pas rien qu'ici, en France, à travers toute l'Europe, les Alpes, dans toute l'Europe.
Bon, c'est toujours ce qu'on dit aujourd'hui, hein, je pense.
Oui,
on va prendre le grand air de la montagne. Voilà, mais on est bien, en tout cas, Salvan. On va profiter de vous avoir avec nous aujourd'hui, Dominique Fournier, puisque vous êtes guide de la Fondation, vous connaissez tout par cœur, toutes les machines qui nous entourent là en ce moment. C'est magnifique. Je vais vous laisser aux mains de Justin, qui est équipé d'un micro sans fil. C'est bon, Justin, tu es bien équipé ?
Oui, Caro, j'espère que tous nos auditeurs nous entendent. Et pour tout vous dire, on est en train de réaliser une prouesse technique aussi, peut-être pas aussi grande que Guglielmo Marconi. Mais je vais inviter du coup Dominique Fournier à nous rejoindre pour effectuer cette visite de la Fondation Marconi. Alors déjà, Dominique Fournier, vous pensez que c'est quel itinéraire qu'il faut choisir, plutôt à droite ou à gauche pour commencer cette visite ?
Alors on va passer directement à droite. Je ne sais pas si c'est volontairement que la télévision s'est éteinte. On sait qu'il y a donc trois salles dans le musée. Il y a une salle où c'est qu'il y a une rétrospective par rapport à la famille de Marconi. Puis derrière, comme on donne dans un ancien hôtel, c'était la cave à vin, où c'est qu'il y a une imagerie qui présente tout ce qui s'est passé, enfin pas tout ce qui s'est passé, mais l'aventure du Titanic, dont on reviendra peut-être tout à l'heure.
N'en dites pas trop.
Et puis la grande salle où c'est qu'il y a l'évolution technique depuis l'appareil qu'a utilisé Marconi pour faire ses premières transmissions de télégraphie sans fil jusqu'au portable Indy d'aujourd'hui.
Et du coup, oui, nos auditeurs doivent mourir d'impatience. On va tout de suite effectuer cette visite et voilà, c'est incroyable, on est en train de se déplacer, vous nous entendez. Du coup, on arrive dans cette première salle et c'est la rétrospective, vous m'avez dit, c'est ça ?
C'est par rapport à la famille de Marconi. Donc on voit sur une toile où c'est qu'il y a Anne Jameson, donc la maman de Guglielmo, avec son frère Alfonso, donc le plus grand, hein. Guglielmo c'est le plus petit. Et puis, pour illustrer la famille irlandaise et la famille italienne, donc le père de Marconi était un industriel italien qui habitait à Bologne, et Anne Jameson est la fille directe des grandes distilleries Jameson qui existent toujours à Bedford. Donc ils ont même sorti pour les 100 ans, le centième, pas anniversaire, mais la célébration du naufrage du Titanic, ils ont sorti une cuvée spéciale. Et il y a une bouteille qui est là présentée dans l'exposition qui est toujours ouverte.
D'accord, parce que je me demandais si cette bouteille était là pour l'exposition ou si quelqu'un l'avait oubliée lors d'un apéro.
Non, on n'a pas osé la finir quand même, mais elle a été ouverte lors de la mise en place de cette exposition en 2012.
D'accord. Et on voit aussi, vous l'avez dit, une télé qui n'est pas allumée aujourd'hui et un écran tactile. Il y a quoi là-dessus ? C'est une petite histoire sur...
Sur la télévision, il y a l'histoire de Marconi qui célèbre un petit peu parce qu'il est né, il a né et grandi entre deux cultures, donc entre l'Italie et l'Angleterre, d'où sa passion pour les voyages. Il faut savoir que Guglielmo n'était pas un enfant très très studieux. Il a fait 1012 écoles et... On ne doit jamais dire aujourd'hui aux enfants quand on fait l'exposition, mais malheureusement, c'est écrit, pour ceux qui savent déjà lire, il n'a jamais obtenu aucun diplôme. Il a été formé à l'électricité et à la physique par un précepteur qui venait à la maison lui donner des cours. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passionné pour l'électricité. Il a inventé une pile électrique, il a inventé un tas de choses qui lui ont permis, après, de mettre pour faire l'émetteur et le récepteur. Il n'a pas tout inventé dans l'émetteur et le récepteur. Il a mis en place des éléments que d'autres savants avaient inventés. L'éclateur de Righi, la bobine de Runcorf pour provoquer l'induction de cette étincelle, on verra tout à l'heure, et puis notamment le cohéreur de Branly, un Français, qui permettait de réceptionner cette onde électromagnétique et d'en faire quelque chose imaginé par une sonnerie ou par un bout de papier qui se gratte.
Un vrai passionné, quoi, ce Guglielmo. Et là, on voit aussi un buste, c'est le buste de Guglielmo Marconi ou...
Le buste de Guglielmo Marconi qui nous a été offert gracieusement par un passionné qui désire rester anonyme. Et c'est une des répliques, une des quasi seules répliques vraiment, à l'identique du buste de Guglielmo Marconi.
D'accord, donc il y a vraiment des pièces uniques dans ce musée. Et vous, en tant que grand passionné de Guglielmo Marconi, vous en avez un dans votre salon aussi, un buste de...
Oui, la terre est basse. Non, j'irai pas jusque-là. Mais effectivement, je suis passionné de l'histoire de Marconi et de sa venue ici, tout simplement parce que c'est un peu le sentiment, d'une part, le respect par rapport à tout ce qui a été fait ici, et puis par rapport à l'histoire de comment on a su que Marconi était venu ici à Salvan. Parce qu'en fait, c'est le petit garçon Maurice Guébalma qui était son aide de camp qui lui a transporté son récepteur, qui racontait ça à mon père qui était postier. Et le jour même, dans la fin de la poste, il y avait un journaliste qui était à la radio suisse romande qui s'appelait André Nusselet, qui a un chalet qui habitait dans le même village. Et ils sont descendus, ils ont fait le premier enregistrement de l'histoire de Marconi à Salvan. C'est pour ça qu'en fait, il y a aussi l'attachement un petit peu sentimental par rapport à toute cette histoire autour de Marconi.
D'accord, donc il y a toute une histoire derrière. On continue un peu notre visite. Là, on voit qu'il y a des cartes postales. Elles viennent d'où ces cartes postales?
Ces cartes postales imaginent très bien comment était la région à l'époque où Seg Marconi était ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était en plein boom touristique jusqu'en 1920. Et on voit ici sur la pierre bergère, par exemple, où c'est que toutes ces dames en grand chapeau, c'est pas, et en voilette, ce n'est pas des autochtones. Ce sont uniquement des touristes. Si on voit sur toutes ces grandes photos qu'il y a, ou ce qu'il y a sur la place, même sur la place de Salvan, alors que l'architecture globale n'a pas changé, tous ces gens qui sont là, ce ne sont pas des autochtones, ce sont vraiment des gens qui sont en touristes.
D'accord, ben on va continuer notre visite.
Une petite chose que j'aimerais dire ici, par rapport au tourisme et à l'époque, par rapport à la vie actuelle et tout ça. Vous savez, à l'heure actuelle, on parle de MeToo. Et puis, déjà à l'époque, les gens se posaient la question comment ça se faisait que c'était toujours les dames qui travaillaient. Et on voyait, si vous regardez ces images, vous voyez très bien que c'était déjà comme ça. Et je ne sais pas si c'est toujours comme ça, j'espère que ça va changer quand même. Mais les hommes étaient très souvent assis, les bras croisés, un peu comme sur la Corse et l'Italie et tout ça, c'est que les gens et tout ça. Et ce sont les femmes, toutes les dames qui sont là-bas, qui transportent le foin, ce sont toutes les dames qui faisaient les travaux pénibles parce que les hommes étaient au contact avec les clients, ils étaient guides, ils étaient toujours à l'extérieur et c'est les femmes qui faisaient tous les travaux de la terre et des récoltes. Et d'où la révolte de MeToo, je peux dire qu'elle est venue avant maintenant, parce que quand le tourisme a transformé cette agriculture et tout ça, ce sont les femmes qui sont venues au service, et pas les hommes.
D'accord, Dominique Fournier. Du coup, on va commencer, là on arrive dans une grande salle assez impressionnante. Là, on voit plein d'objets. Vous pouvez m'en décrire quelques-uns, on va peut-être aller vers le premier. Là.
Alors, le premier qu'on a maintenant en face de nous, c'est une réplique des appareils qu'a utilisé Guglielmo Marconi pour faire ses premiers essais de télégraphie sans fil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau technique, sans rentrer beaucoup dans les détails, il y a trois éléments principaux. C'est l'éclateur de Righi, qui provoque une onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a un arc électrique qui se provoque entre ces deux boules de bronze au milieu, la bobine de Rundkopf qui sert pour l'induction et qui provoque vraiment une impulsion électromagnétique. Et puis, cette onde électromagnétique est récupérée. Il a imaginé, pour transmettre de ça, comme le cuivre est un très bon conducteur électrique, il a mis des grandes plaques de cuivre. La première chose qu'il a utilisée, c'est un fond de bidon éclaté, qu'il a fait dans ses premiers essais. Puis après, comme le cuivre est meilleur conducteur, il a utilisé ça. Mais ce qu'il a dû découvrir à travers tout ça, c'est que tout ça existait, mais ça ne fonctionnait pas. Et c'est lui qui a découvert, par contre, que si on ne mettait pas un fil qui allait à la Terre, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui pouvait se transmettre. Et après, quand il a découvert ça, il a mis en place des éléments, des petites bobines électriques. Et l'élément principal, c'est ce petit tube de verre là, qui est le cohéreur de Branly, qui est un tube, vous savez qu'il y a la limaille de fer sous vide. Et quand on met le plus et le moins d'un côté, la limaille, elle se solidarise et elle crée le contact. Et lui, il a imaginé ce petit marteau pour que quand on enlève, la limaille se désolidarise pour rompre le contact. Autrement, ça ferait un son continu ou un contact continu. Et c'est pour ça qu'on a pu faire des traits et des points, transmettre des traits et des points en fonction de ces éléments.
Ouais, comme vous le dites, on dirait que c'était un vrai passionné qui évoluait en fait un petit peu à tâtons en faisant plein d'essais jusqu'à trouver la bonne manière, la solution.
C'est ça. Exactement.
On va continuer notre petite visite. Et juste pour revenir, du coup, vous avez dit que vous faites visiter ce musée à tous les gens qui le veulent, en gros, si.
Alors, on fait beaucoup, depuis maintenant jusqu'à la fin des écoles, on fait beaucoup de visites avec des écoles. Alors, on prend les enfants depuis 5-6 ans, parce qu'en dessous, c'est difficile par rapport à la compréhension technique. Mais depuis qu'ils ont 6, 7, 8 ou 10 ans, ça va très vite et c'est très agréable de discuter. Et après, avec les grandes personnes, des passionnés, tout ça. Alors, on rentre. Moi, je ne rentre personnellement pas dans les détails vraiment techniques par rapport à la radio, les transmissions et tout ça, parce que c'est pas forcément mon domaine. Mais les gens sont toujours ému et passionné de voir l'évolution de la technologie qui va depuis là, comme je dis, les premiers, si on nous dit, c'est un premier portable, un peu difficile à mettre dans la poche, j'en conviens, mais jusqu'au handi qu'on a à l'heure actuelle.
Et là, devant nous, Dominique Fournier, il y a des objets, à première vue, on ne voit pas trop à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces quatre cubes de verre qui contiennent des objets?
Alors,
devant nous
là-bas, si on prend le premier là-bas, c'est un micro-porcelaine donc, qui a servi pour la radio. Ça, c'est un goniomètre, c'est un instrument de mesure qui est beaucoup employé sur les bateaux. Et puis ici, vous avez les langues pour savoir que l'évolution de la radio, elle a passé par le poste à galène, mais ça on peut le voir là-bas sur toute la lignée, c'est plus facile. Le poste à galène, les postes à lampe, et après, on sait qu'on est arrivé au transistor, le fameux transistor qui a permis de miniaturiser les radios, comme celle de Brigitte Bardot qui est là-bas sur le petit bout.